Il y en a beaucoup de commentateurs, elle n'a pas trouvé grand-chose à se mettre sous la dent, mais que Rachi, justement, dans sa sobriété même, est intervenu chaque fois avec des dimensions extrêmement profondes. Alors, ce qui est intéressant, voyez, dans le livre « Le sacrifice interdit » de Marie Balmary, elle met en dessous Freud et la Bible. Freud a écrit aussi hein, sur Moïse, sur Totem et Tabou, etc. Il a écrit aussi sur le sacrifice d'Abraham. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans sa réflexion, c'est qu'il y a un va-et-vient chez elle entre le texte biblique lu dans sa rigueur, avec le halo des commentaires et de certaines traditions bon, qu'elle a eues comme nous avons eues, hein, elle est catholique, donc, et en même temps une réflexion sur sa psychanalyse. Et ce qui est très fort, c'est voir comment la psychanalyse lui permet de poser des questions ou plutôt de récolter des détails que le texte dit. Elle est habituée à lire hein, dans ce que une personne lui raconte de sa vie, elle est habituée à lire le non-dit du texte. Pourquoi ? Quand la personne va dire un mot, elle s'arrête chaque fois avant de dire un mot. Il y a quelque chose, il y a des arrêts dans le texte aussi. Et donc elle est habituée à lire un texte comme quelqu'un qui dit sa vie. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais en même temps, elle réfléchit. Et elle renvoie constamment du concret des patients avec qui elle parle au texte de la Bible à travers toutes sortes de documents d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le grand intérêt d'un livre comme cela. Et qui est d'un intérêt très supérieur à, par exemple, une autre comme Françoise Dolto, qui, elle, laisse parler deux, trois mots du texte, et puis, tout de suite, elle s'en va dans sa psychanalyse. Elle est beaucoup moins rigoureuse. Marie Balmary est d'une rigueur, je dirais, presque extrême. Elle utilise généralement la traduction de Souraki, mais elle va trouver très souvent l'hébreu, justement pour essayer d'avoir, je dirais, le primitif du texte. Et c'est exact, le texte a quelque chose de très primitif qui n'est pas du tout primaire. Il a une expérience qui surgit. Regardez par exemple, je prends ici, hein, à partir de du verset 13, voilà ce qu'elle dit. L'histoire ne se termine pas dans la seule immolation des pronoms possessifs. Bien dit ça, hein. Mon, ton, mon fils, ton fils, ton unique. L'histoire ne se termine pas dans la seule immolation des pronoms possessifs. Comme un élan qui ne pourrait être brusquement brisé sans faire souffrir celui qui s'élance, le mouvement sacrificiel se détourne, mais n'est pas arrêté. Le fait qu'il ne soit pas arrêté montre que le sacrifice est une réalité. Il ne faut pas supprimer le sacrifice. Il y a un sacrifice réel, mais pas celui d'Abraham, pas celui d'Isaac, mais de mon fils. Le sacrifice, c'est Abraham qui doit le faire, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Abraham porte les yeux, elle lit dans sa littéralité, le verset 13, Abraham porte ses yeux et voit. Et voici un bélier derrière, saisi ou allié par les cornes. Abraham va et prend le bélier, il le monte en montée au lieu de son fils. Et elle réfléchit. Abraham lève les yeux et voit. Il voit quoi ? Il y a un arrêt dans le texte. Bon, souvent dans nos traductions, et voit le bélier. Abraham porte ses yeux et voit. Abraham lève les yeux et voit, le verbe ne comporte pas de complément d'objet. Il s'agit donc d'une vision. Il voit plus qu'un objet. Il voit probablement une image qui porte sens. Ça, une vision. Et donc, si on, le texte s'arrête et voit, donc il vous dit, attention, regarde ce qui est à regarder dans le texte. Et voici un bélier derrière, saisi au hallier par les cornes, autre traduction, un bélier derrière pris dans la broussaille par les cornes. En quoi cette perception d'un objet pourtant bien réel, puisqu'Abraham va sacrifier le bélier, est-elle en même temps une vision? Elle réfléchit exactement comme le font les auteurs juifs. La seule preuve que je peux avoir est celle-ci. Si c'est une vision, elle est déchiffrable. Voici un bélier. Tout à l'heure, Isaac a parlé d'agneau, un animal jeune, habituelle victime de sacrifice. Ce n'est pas cela qu'Abraham voit, mais un bélier. Et donc si on vous dit « il voit » et puis « voici un bélier », le texte lui-même vous dit qu'il y a quelque chose à dire, à voir. Le fils parlait d'un animal fils, le père voit un animal père. Bélier, père de l'agneau. Renversement. Tout aura donc basculé jusqu'à l'identité symbolique de la victime. Et vous savez, elle n'a pas inventé, ça Rachid le disait déjà.
Donc le bélier devient le symbole d'Abraham.
D'Abraham, du père. Du père, qui sacrifie sa paternité. Tout a donc basculé jusqu'à l'identité symbolique de la victime. Abraham n'a pas besoin de retourner contre lui la violence. Mais il sacrifie un animal père, là où l'animal enfant devait être immolé. Littéralement, il le fait monter en montée au-dessous de son fils. En lieu, au lieu de son fils. En lieu de. Et le terme en hébreu, c'est achat, en dessous. Isaac, fils dépossédé, il n'est plus possession du père, a disparu vers le divin. Hein, quand il dit Elohim, il traduit le divin. Comme Shuraki. Vers le divin, hors du champ sacrificiel de la possession paternelle. Abraham n'était-il pas auparavant, derrière, ce bélier pris par les cornes, signe même de l'animal père, dans la broussaille de l'idolâtrie? Donc le Dieu auquel Abraham se sentait appelé à immoler son fils était une idole. Il fallait qu'il le découvre. Pour aller encore vers lui-même, va vers toi. Il avait à sacrifier ce qu'il n'allait plus être. À quitter, abandonner, tuer ce père qu'il avait été, à la fois pris et prenant. Il a sacrifié le sacrificateur. C'est bien une vision. Abraham voit ce que le divin lui-même voit. C'est ça qui a le jeu de mots sur le voir. À propos de lui, le récit se poursuit à ce propos. Abraham crie le nom de ce lieu, le Seigneur verra. Qui se dit aujourd'hui, sur le mont du Seigneur, il sera vu. S'il voit, c'est qu'on est vu. Comment est-ce que je suis vu par Dieu? Et il faut passer de comment je vois Dieu à comment je suis vu par Dieu. Et c'est ça le passage de la liberté. Comment je vois mes images de Dieu, j'en ai les quantités. Tantôt je le vois comme le gendarme, tantôt je le vois comme le bonasse, le bon papa gâteau. Je le vois de 36 manières. Comment suis-je vu? Alors là, je suis nu. Là, j'ai plus de défense. Et c'est le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est lâcher ses défenses. Et toutes nos journées se passent à découvrir tout le système de défense que nous avons, nous avons mis des années à nous construire. Scheifung der Bastion, hein, dit Hans Urs von Balthasar, quand il parle de l'Église, hein, qui doit raser ses bastions, c'est-à-dire devenir vulnérable. Mais devenir vulnérable, c'est devenir blessé. Et devenir blessé, c'est apprendre à découvrir quelque chose. C'est à force d'être blessé que vous vous rendez compte de la résistance, de la chaleur, etc. C'est la limite qui me dit chaque fois l'au-delà de la limite. Alors que pour nous, on se bute sur la limite et puis on se ferme. Alors que la limite est le passage. Et détecte-le. Mais c'est pas le seul, c'est le premier. Mais tous les textes de la Bible nous répètent à l'envi tout cela. Et c'est pour ça que je vous dis, nos journées sont remplies des idoles que nous avons lâchées en cours de journée, et nous nous rapprochons comme ça du vrai Dieu. Ça, c'est la marche. Abraham, c'est un homme qui marche. Alors, c'est un excellent examen de conscience. Quelles sont toutes les images de Dieu, toutes les illusions qui me sont tombées aujourd'hui? Ce sont des grâces. C'est un bon examen de conscience. Oui ?
Donc tout ça, c'est très intéressant. Ça demande donc un long temps d'approfondissement du texte, etc. Mais ne pouvait-on pas dire en raccourci ceci, c'est que à partir du moment où on se pose la question comme on l'a posée ici, parce que finalement, il y a quand même cette question, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, il y a donc une mise à l'épreuve qui est faite.
Parce que tu n'as pas retenu ton fils. Ah, oui, mais attention, c'est important. Ah oui, mais tu ne l'as pas retenu pour toi.
Mais est-ce que ça veut dire ceci? C'est qu'à partir du moment où je me dis Dieu ne peut pas exiger ça, ce n'est pas possible. Ça veut donc bien dire que je n'ai pas confiance en lui et que je l'ai mis sous haute surveillance. Donc Dieu est mis par moi sous haute surveillance, ce qui est conforme à ce que je juge bon, je l'accepte, sinon je le refuse. Donc ça veut tout simplement dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Et il me semble que ce qui a d'essentiel, c'est que parce qu'il a confiance en Dieu, c'est sa confiance en Dieu, et parce qu'il a misé sur le bon, bien entendu, c'est ça qui va la mieux. Eh bien, Abraham va nécessairement vers la vie et vers le salut, puisqu'il a mis sa confiance en Dieu. Donc à partir du moment où nous nous mettons à la place de Dieu pour décider ce qui est juste et bon, ça veut dire qu'on n'a pas encore d'alliance avec Dieu. Et je vais presque dire ceci, c'est que, hein, comme saint Thomas le disait, l'ancien hébreu qui sacrifiait à une idole, il aimait peut-être tout autant son Dieu en faisant ça, je suppose que nous avons vu laisser la théorie favorable, que c'est par amour de Dieu qu'il le faisait et pas par intérêt personnel. Mais si c'était par amour de Dieu qu'il le faisait de cette façon-là, saint Thomas dit qu'il faisait un acte d'écoute.
Bien sûr.
Alors, il y a des images de Dieu qui sont vraiment dangereuses, hein, aussi. Parce qu'il y a Dieu et l'image de Dieu, qu'on en a de toute façon avec des images.
Mais nous avons toujours des images.
Oui, mais on peut avoir aussi des images dangereuses.
Ben,
bien évidemment.
Bah oui.
Et les guerres saintes et tout.
Ben oui. Et nous en avons.
C'est pas parce qu'on le fait au nom de Dieu que l'image.
Non, mais on peut passer par là. Acceptons que l'autre passe par là aussi, comme nous sommes passés par là. Nous lui avons mis sur le dos beaucoup de choses, hein, dans notre vie. Moi, ça ne veut pas dire que c'est bien nécessairement, mais nous sommes passés par là. Mais c'est vrai, ce que dit Michel, c'est exact. Tout homme qui se déprend de lui-même se rapproche en quelque sorte de l'image de Dieu profonde, cette fois-ci de la ressemblance de Dieu, prenons pas image, mais prenons ressemblance de Dieu qui est en lui. Il s'en rapproche. Mais il faut beaucoup de détours, il faut beaucoup de serpents pour arriver. Oui.
Comment tu réponds à une réaction de son mari, justement, qui dit c'est fou le temps qu'il faut pour arriver à comprendre quelque chose au niveau de cette relation à Dieu à travers l'enfant. Et nous, on a eu peut-être plus de chance pour nous, parce qu'on a fait des sessions, on a eu des temps d'échange, d'autres personnes qui nous ont éclairé. Mais combien de entendre des textes qu'on ne devrait jamais lire parce qu'ils ne sont pas explicités ou mal explicités et qui construisent à travers la durée des images. Il en est plus serré, vraiment plus serré, mais il se fâche tout le temps sur l'église par rapport à tout. Qu'est-ce que tu dis?
Découvrir que ça, ça fait partie de la miséricorde de Dieu. De nous laisser errer. Que notre errance est miséricorde. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à découvrir ça. Mais nous avons cette expérience quand nous laissons nos enfants ou nous-mêmes ou notre conjoint, parfois, je dirais presque, s'enfoncer dans la réalité. Nous avons essayé d'intervenir, mais nous nous rendons bien compte que chaque fois que nous intervenons, nous nous butons. Et faire cette confiance à l'autre que la véritable présence de Dieu finira par se dévoiler. C'est miséricorde, ça. Je ne force pas. Et il ne faut pas non plus comparer un chemin à un autre. Mais si j'ai suivi un chemin privilégié, c'est aussi pour les autres. Hein, c'est toujours ce qui dans la Bible est exprimé comme un reste. Un reste n'est pas le petit reste qui est sauvé et tout le reste. Hein, tous les autres tombent à rien. Non, ce petit reste est sauvé pour les autres. Il est toujours intercesseur et il est toujours en solidarité avec les autres. Et donc tout ce que les autres vivent et tout ce que les autres souffrent doit nous affecter. Et c'est miséricorde de Dieu que nous puissions attendre avec lui le dévoilement de son amour. À charge pour nous de lui, dites-le.
Mais si la partie reste à chacun de nous,
c'est
un
quoi?
Un petit reste.
Si. À chacun. Il n'y a pas de mal total, il n'y a pas de mal absolu. Et c'est ce petit reste dans chacun d'entre nous qui sauve le reste du nous. C'est pour ça que ce qu'il y a à découvrir, c'est l'extraordinaire richesse de l'autre et de moi. C'est pour ça que j'ai d'abord à m'aimer et à découvrir combien je suis, comme le psaume le dit, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Je suis cadeau. Et si nous utilisions tout notre temps, et surtout tout le temps que nous perdons à juger l'autre et à nous juger nous-mêmes, si nous utilisions tout ce temps-là à célébrer notre grandeur et celle des autres, je vous assure qu'on gagnerait un temps fou dans le monde. Un temps fou. Or c'est vraiment ça que la Bible nous met. Alors, dès que nous sommes en train de nous fâcher contre quelqu'un, contre nous-mêmes, c'est un quelqu'un, ça, chercher la petite bête, juger, ils sont comme ceci, ils sont comme ça, je compare, mais temps perdu, mais gagner donc ce temps en repos. Mais oui, et se reposer, c'est être heureux de l'autre, heureux de soi. Et ce serait la même manière de rendre Dieu heureux. Et ça se trouve entre les lignes, hein. C'est pas tout de suite le texte, mais ça se trouve entre les lignes. Oui.
Je pense un peu à la rédemption. Est-ce que souvent dans notre église, du moins certains, ou de toute façon, on ne présente pas tout à la rédemption comme un Dieu qui a envoyé, qui a sacrifié son fils, qui a laissé mourir, et alors tout le côté justement un petit peu, qu'on a un peu. réfléchit aujourd'hui, plutôt que de penser que l'incarnation, c'était de mettre Dieu dans l'homme, le nouveau homme qui vivait vraiment l'esprit de Dieu, et les deux sont réunis ensemble, et que, mais le Christ, comme nous autres, nous devons justement vivre l'amour, hein, je dirais jusqu'au bout, donc l'amour jusqu'au bout, sans jamais se séparer de Dieu, ni l'amour des autres, des hommes, et cela y compris jusqu'à la mort. Et que la mort n'est pas le problème premier et central, justement, dans la rédemption. Quoi. Dieu n'était pas un service qui a envoyé son Fils, mais il est allé, puisque à partir de l'incarnation, si Dieu s'est incarné, il devait mourir. Donc il a pu mourir jusqu'à. Vivre jusqu'à la mort et en aimant Dieu, etc.
Oui, c'est vrai, mais les pères de l'Église nous-mêmes ont toujours l'image d'Abraham lorsqu'il parle du père qui envoie son fils. Mais le père qui envoie son fils, ça signifie, hein, et l'incarnation signifie, non pas seulement un homme parmi d'autres que Dieu a assumé est allé jusqu'au bout de l'amour, mais ça veut dire que quand Dieu s'incarne, c'est qu'il prend, qu'il manifeste, qu'il prend chaque personne humaine. Jésus n'est pas seulement un homme, il est aussi tout homme. Et on ne peut jamais séparer l'un de l'autre. Si vous faites de Jésus un homme qui a donné un exemple magnifique d'un amour qui va jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mort, vous en faites un exemple magnifique. Il y en a d'autres. Il n'est pas le seul. Et il ne nous a pas sauvés. On peut essayer de l'imiter, mais il ne nous sauve pas. Ce n'est pas comme ça qu'il nous sauve. Et ce n'est pas l'incarnation, ça. C'est une sorte d'entonnoir où vous trouvez toute l'humanité concentrée dans un exemple type. Mais il est en même temps, ce qu'on appelle en théologie un universel concret, il est en même temps tout homme. C'est toute l'humanité qu'il a assumée, tout un chacun. Et c'est parce qu'il assume chacune de nos libertés, en nous laissant et en nous donnant d'être libres, c'est parce qu'il assume chacune de notre liberté qu'il peut nous sauver, c'est-à-dire à l'intérieur de chacune de notre liberté. Il peut sauver notre liberté. S'il n'est pas aussi cela, alors je vous dis, il reste un bel exemple.
C'est la catégorie de fils de l'homme.
Ah, tout à fait. Fils de l'homme, c'est ainsi qu'il s'appelle. C'est le titre, le seul titre qu'il revendique. Fils de Dieu, il ne se dit pas fils de Dieu, c'est trop ambigu. Mais fils de l'homme, oui. C'est-à-dire, il est vraiment présence de Dieu dans tout homme. C'est pour ça que l'homme a un caractère si sacré. C'est pour ça que attenter à la vie de n'importe quel homme, c'est attenter à Dieu lui-même. Et c'est peut-être ça que nous avons oublié. Alors, nous faisons de Jésus un beau modèle. Mais je regrette, ça ne suffit pas.
Il est aussi, mais ça ne suffit pas.
Suffit pas. Bon, je m'arrête parce qu'il est l'heure. Je reviens tout à l'heure parce que...
C'est la contingence.
Faire un peu notre propre reflet parce que c'est nous qui lisons. C'est je qui lis. Donc, on ne peut pas faire autrement.
Mais je lis en église aussi. Je ne lis pas tout seul. Ben,
voilà. Je n'ai pas seul. Le deuxième point que j'allais donner. Excuse-moi. Je n'ai pas seul. Je lis en église, et donc il y a non pas dans ma lecture ou dans ta lecture ou dans sa lecture, il n'y a pas à faire une sorte de totalitarisme ou absolutisation d'une lecture. Et c'est pourquoi justement, pardon. Non, il n'y a pas d'absolutisation d'une lecture dans les protestants. Justement, hein, il n'y a pas du tout d'absolutisation, mais on en reste souvent chez les protestants à la lecture subjective. Et c'est vrai qu'il y a un guide. Et évidemment, quand on fait cette lecture-là, d'ailleurs, tous ceux que je cite font au fond partie d'un courant d'Église. Il y a l'inspiration qui travaille à l'intérieur de ce texte, car si ces textes sont inspirés, ils sont inspirés non pas seulement parce que tous ceux qui l'ont écrit l'ont inspiré, mais c'est parce que ils essaient tous, et le livre dans sa totalité, essaie de coller à un chemin de Dieu à l'intérieur d'une expérience. Et c'est le fruit de cette expérience qui m'est donnée là. Et c'est pourquoi un texte seul ne peut jamais être pris. Ou un choix de texte, par exemple, dans l'Évangile. Quand je prends un évangile, je peux choisir des textes parce qu'ils me disent quelque chose davantage, mais au fond, je dois prendre tout l'évangile, ce qui me dit et ce qui ne me dit pas. Hein? Et donc, il y a toujours une cohérence, et justement, cette bibliothèque que signifie la Bible me donne finalement une grande cohérence. Et il faut toujours ramener tout à cette grande cohérence. Et il y a des textes qui nous apparaissent troublants, choquants, scandaleux, et ils peuvent l'être dans un premier temps, mais essayons de rattacher ce texte à la cohérence de l'ensemble. Donc il y a déjà, dans l'inspiration, il y a un chemin d'Esprit Saint à travers une expérience qui a été dite d'abord, hein, parlée, et puis écrite, et qui a donné cet ensemble-là. Cet ensemble-là, donc ce corps, hein, on parle aussi du corps de l'Écriture, qui est aussi un corps du Christ. Après cela, c'est pourquoi justement dans les lectures qui sont mentionnées dans le document de la Commission pontificale, biblique pontificale, il y a aussi la réception de l'Écriture qui fait partie de... non pas de l'inspiration constitutive, hein, ce qu'on appelle l'inspiration constitutive, c'est l'inspiration qui se termine au livre, et selon la formule consacrée, à la mort du dernier apôtre. On dit que l'inspiration constitutive, la révélation constitutive de la Bible, se termine à la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire à la mort du dernier témoin direct. Avec un peu de largeur de vue, bien entendu, parce qu'il y a des textes qui ont été probablement composés après, mais c'est un de Saint Paul, par exemple, mais ça n'est rien. C'est une manière de s'exprimer. Mais alors, la réception du texte se fait dans une église. Et justement, les apôtres ont ici une place très importante, qui leur est d'ailleurs donnée, confirmée par les actes des apôtres, qui montre justement qu'ils ont à discerner si l'esprit interprétatif de l'Église primitive est bien l'authentique esprit constitutif de Jésus. Et une fois que ce lien est fait, est passé, c'est-à-dire une fois que l'écriture du Nouveau Testament est en route, ils tirent leur révérence. Les apôtres n'apparaissent plus. Et ce sont d'autres qui transmettent cette inspiration lectrice, cette fois-ci, inspiration interprétative. Et cette interprétation interprétative, révélation, cette inspiration interprétative, va changer suivant les époques. Elle va de temps en temps, suivant les besoins d'ailleurs aussi, elle va prendre telle ou telle forme. Vous avez d'abord les pères apostoliques qui vont former une réflexion fondamentale sur l'Écriture. Commencez par là. Qui est Jésus, etc. Et les premiers conciles vont faire la même chose. Puis, vous allez avoir les autres pères de l'Église qui ont succédé aux pères apostoliques et qui vont essayer de déployer le mystère. Et qui vont le déployer dans une grande symbolique. Certains diront spiritualisation, sait pas, découverte du sens spirituel. Et il y aura tout le temps, d'ailleurs, je ne dirais pas une opposition, mais un dialogue chez les pères de l'Église et dans la ligne interprétative de l'Église, il y aura tout le temps un dialogue entre l'interprétation littérale, le retour à la lettre, et l'interprétation spirituelle, l'ouverture maximale. Et tout le temps. Et ce dialogue est important, cet aller et retour. Il n'y a pas une seule ligne qui est traditionnelle. C'est toute la réalité qui est traditionnelle. Saint Jérôme n'est évidemment pas Augustin. Et Hilaire de Poitiers n'est pas Saint Basile. Et cependant, vous voyez qu'il y a une convergence de nouveau, et c'est ça qui est intéressant, une cohérence qui apparaît à travers toute cette interprétation de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation de l'Église? Le magistère de l'Église ne s'est prononcé sur le sens précis d'un passage d'Écriture que 4 ou 5 fois, sur un sens précis. Tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon Église, voilà un de ceux qui ont été pris. Et d'ailleurs, l'interprétation ne s'est faite qu'à partir de la mise en cause de l'Église, précisément, par une interprétation ou des interprétations protestantes, ou bien par exemple, parce que ça a été mis en cause aussi, que l'institution du sacerdoce est le moment où Jésus institue l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Mais il n'y a que 4 ou 5 points qui ont été déterminés de façon précise. Mais le reste, c'est à ramener à cette grande cohérence interprétative de l'Église. Et l'inspiration, c'est cette garantie que cette cohérence qui aboutit d'abord à l'écrit, et cette cohérence qui part de l'écrit, celui-ci, pour arriver à l'écrit de nos vies, mais celui-là est une interprétation ecclésiale. Alors ce que je trouve justement intéressant, c'est que jusque à la Renaissance, cette interprétation patristique, même et y compris Saint Thomas d'Aquin, comme d'ailleurs tous les grands théologiens de cette époque, ont commencé par être des lecteurs d'écriture. Ils ont commencé par expliquer la parole. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont fait leur Talmud, c'est-à-dire leur somme théologique, en essayant de ramener ça de manière rationnelle. C'est exactement le mouvement du Talmud, sauf que le Talmud a fonctionné comme ça 6 à 7 siècles plus tôt. C'est la même chose, c'est le même travail. Et vous remarquerez aussi ce que saint Thomas fait, dans sa somme théologique par exemple, c'est qu'il utilise toujours le questionnement, et qu'il utilise également toute la science de son époque, que ce soit la science des musulmans, Avicenne, Avicenne, etc., ou Maïmonide, la science juive, ou bien aussi Platon et Aristote, il utilise toute la science de son époque, à son époque. Il fait comme ça. Et si vous prenez les commentaires de saint Thomas d'Aquin, par exemple, ils sont fort intéressants, mais ils ont une perception plus rationnelle.
Tout en s'appuyant sur toute une tradition.
Tout à fait.
Comme dit Lombard, etc.
Mais c'est le moment de la somme théologie. On essaie de comprendre les choses de manière rationnelle. À la Renaissance, on s'est rendu compte beaucoup plus qu'auparavant de l'humanisme, de toute la réalité anthropologique. Et l'anthropologie allant dans deux sens, l'anthropologie du paganisme, qui a écrit sur l'homme, et puis l'anthropologie selon l'histoire. On s'est davantage rendu compte de la dimension historique. Et donc, on s'est mis d'une part à approfondir ce qu'on peut appeler anthropologie, sociologie, l'archéologie va commencer aussi à ce moment-là, archéologie et donc sociologie, psychologie, ces différentes dimensions, l'homme. L'homme, l'époque de la Renaissance. Et on va privilégier de plus en plus la catégorie histoire. Au fond, tout cela, la Bible, est le fruit d'une histoire. Et à l'époque des patriarches, on ne vivait pas de la même manière qu'à l'époque de David. À l'époque de David, on ne vivait pas de la même manière qu'à l'époque, qu'après l'exil, etc. Donc on va prendre une sorte de recul historique qui n'était pas pris par les pères de l'Église. Les pères de l'Église et même saint Thomas ne s'occupaient pas tellement de cette dimension historique. Et alors, cette dimension historique qui sera confrontée aux réalités de l'archéologie, on va aller voir, tiens, comment vivaient les Babyloniens, comment vivaient les Hébreux. Tiens, les Babyloniens pensaient aussi que la loi était donnée par Dieu, comme les Hébreux pensaient aussi que la loi était donnée par Dieu. Bon, voilà, au fond, c'est une seule et même chose. C'est un courant de civilisation. Et on va réduire, on va avoir tendance à réduire tout le processus de l'écriture à un phénomène de civilisation. D'où réaction, et on va arriver au modernisme, on va dire, oui, tout ça, ça contredit la science. La science, maintenant, va vous prouver que ceci est tout à fait relatif à différentes époques, différentes représentations de Dieu. Et effectivement, vous avez des écrits pratiquement dans toutes les religions. Toutes les religions se valent, et donc une certaine diminution de sens de l'écrit. D'où réaction anti-moderniste, qui va aller dans deux sens. Une qui va freiner des quatre fers, qui va caler, hein, comme la femme de Lot, et qui ne va plus vouloir introduire les réalités humaines, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, etc., dans l'étude de l'écriture, qui va en faire un domaine de plus en plus restreint, et je dirais uniquement religieux, spiritualiste. Et le courant qui va vouloir, tout à fait à l'opposé, historiciser tout. Ça, c'est exactement passé comme cela, hein, qui va devenir du fondamentalisme. Ça, c'est exactement passé comme cela. Et on est rivé alors à la réalité, je dirais, à l'historicisation de tout cet texte. Et il va falloir trouver son chemin. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage ici à quelqu'un comme Lagrange, le père Lagrange, qui, au milieu de ce climat moderniste, a pu montrer que la science historique ne faisait absolument aucun tort à la réalité de la Bible, et qu'au contraire, il fallait aussi traverser cette réalité historique pour percevoir où était la spécificité de la Bible. Et si vous lisez par exemple du père Lagrange, daté de 1903, déjà un document ancien, 1903, de la méthode historique, c'est extrêmement moderne. De la méthode historique. Et c'est vrai que quelqu'un comme Lagrange, d'une part, et dans le domaine philosophique, quelqu'un comme Blondel, d'autre part, au fond, pense de façon très connexe, tout en étant dans des domaines différents, lorsqu'il parle précisément à Histoire et dogme, publié par Blondel, par exemple, mais rejoint très fort de la méthode historique de Lagrange. Mais donc, vous voyez, il a fallu être libéré et d'un historicisme, trop grand, et d'un spiritualisme qui était aussi échevelé, qui pouvait être très, très dans la ligne de certains protestants, qui pouvait être très subjectivisante. Alors, petit à petit, vous avez vu, si vous suivez les documents de l'Église, petit à petit, vous avez vu que l'Église recevait, en prenant une certaine distance et en discernant chaque fois, recevait tous ces éléments qui étaient donnés, l'histoire, les genres littéraires, On est passé des gens littéraires à la structure littéraire d'un texte. Les dimensions, on récupère les dimensions psychologiques, anthropologiques, spirituelles, sociologiques, etc., qui sont aussi présentes dans le texte. Mais, je dirais, chaque méthode ayant à la fois sa signification et ses limites. Et c'est justement l'utilité d'un document comme celui dont je vous ai parlé hier, hein, c'est de bien marquer pour chaque méthode ce qu'elle peut véritablement apporter et là où se trouve sa limite. C'est très important de voir les deux. Et alors, vous voyez, cette interprétation de la Bible, bon, je vous fais grâce de toute l'infrastructure d'études, hein, qui m'a pris des années. Je suis passé par l'historico-critique, je suis passé par les études structurelles, je suis passé par la narrativité et la rhétorique, et j'ai lu pas mal de choses, vous voyez bien, hein. Je lis pas mal de choses dans différentes documentations. Le tout, c'est d'essayer de tenir ces méthodes ensemble et de voir un peu leur part. Mais il y a une inspiration interprétative qui agit à travers tout cela. Hein? Bon, on ne peut pas toujours faire la critique de tout, hein, à tout moment, sinon hein, on passerait des heures. Ce que j'essaie de vous donner, c'est un petit peu un courant en vous montrant aussi comment on peut prendre, comme saint Thomas le faisait d'ailleurs à son époque, comment on peut prendre son bien, hein, un petit peu de tous les côtés, mais il y a un cap à l'intérieur. Et vous aurez remarqué que le cap final sur lequel, hein, je dirige tous mes feux, c'est le texte. J'essaye de quitter le moins possible la littéralité du texte. Il faut bien que ça passe par mon bec, hein. Chaque oiseau chante comme son bec est fait.
Ça, si le texte est que l'étude, oui, comme disait
Jésus. Exactement. Les deux. Que dit le texte et qu'est-ce que tu y lis? Les deux. Que dit le texte et qu'est-ce que tu y lis? Et c'est vrai que, mais étant donné que Marie Balmarie n'existait pas il y a 50 ans, je ne pouvais pas la lire. Mais elle apporte quelque chose. Alors, au début, et je continue quand même de le croire un peu, je croyais que tous ces commentaires, il y en a des quantités, étaient un peu inutiles. Quand vous voyez le nombre de commentaires sur la Genèse, dans toutes les langues du monde. Et puis je me suis rendu compte, non, chacun y apporte sa petite pierre. Parfois c'est une grosse pierre, parfois c'est une petite pierre, parfois c'est un obstacle, parfois c'est un caillou qui aide à marcher. Et il y en a par exemple, il y a des lectures qui moi me paraissent un petit peu aberrantes, en tout cas dans lesquelles je ne vais pas me hasarder. Il y en a d'autres que je trouve vraiment plus substantielles. Mais ce qui est important, c'est de voir, quand vous faites un grand éventail comme cela, de voir, tiens, finalement, à quoi ces différentes interprétations reviennent-elles? Quelle est l'unité de ces différentes interprétations? De nouveau, je retrouve la cohérence. Il me semble que c'est comme ça qu'on pourrait le mieux définir l'inspiration. C'est la cohérence que l'Esprit Saint donne à travers le temps et l'espace, à la présence de Dieu dans l'histoire à travers le livre. Oui, Hubert.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, on disait qu'on reconnaissait l'arbre à son fruit, et bien on reconnaît l'arbre d'une bonne lecture à son fruit, c'est-à-dire à la cohérence, effectivement, de laquelle elle mène. Je pense que c'est un peu ainsi qu'on peut,
probablement,
juger, je dirais, de la pertinence d'une lecture.
Oui. Je crois qu'une lecture exclusive n'est jamais bonne.
Et s'inscrit toujours dans une multiplicité d'autres
lectures. Oui. Oui, mais parfois, hein, tu as des gens qui disent ça veut dire ceci et rien d'autre.
Qu'est-ce qu'il faut dire pour, comment, au serment de dimanche prochain.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire au serment?
Autre chose est le sens littéral que dit le texte, autre chose ce que le Seigneur inspire à chacun qui le lit. Ça a été bien dit là tout de suite. Qu'est-ce que tu y lis?
Oui.
Il faut toujours d'abord revenir à la base. Qu'est-ce que le sens littéral veut dire? Il n'y a pas 20 sens littéraux du même texte. En principe, il n'y en a qu'un, quitte à le cerner de manière un peu diverse.
Oui.
Quand quelqu'un parle, il ne dit pas quelque chose et son contraire.
Non, mais regardez, par exemple, le texte que nous avons vu ce matin semble dire quelque chose et son contraire. Il apparaît d'abord comme ça, comment Dieu se dédie-t-il. C'est comme ça qu'on lit d'abord, hein. On ne fait pas de différence entre Elohim en première partie et Yahvé dans la deuxième. Pas de différence dans une première lecture. Et vous savez, dans ces premières lectures naïves, comme on dit parfois, il y a beaucoup de bons, hein. À beaucoup de bons, ce qu'on comprend finalement n'est pas mauvais. Et donc ce que nous avons appris, même dans notre jeune âge, je me rends bien compte que c'est pas mauvais. C'est de la bonne base. Mais c'est pas encore tout à fait fignolé, on peut aller plus loin. Hein? Et ça ne peut pas nous suffire toute notre vie durant. Mais c'est quand même pas mauvais.
Mais la tradition distinguait les différents sens de l'écriture, tout ça n'est pas neuf.
Non.
Jusqu'au sens accommodatif, on se rend compte que ce n'est pas dans le texte, mais que ça nous suggère.
Ça nous suggère. Tout ça est toujours présent, et ça n'a pas. On n'a pas mis tout ça au musée, et tout ça nous porte. Oui.
Et la lecture symbolique, bien entendu, est toujours évolutive. Puisque notre société trouve des images qu'elle n'avait pas au moment où c'était écrit.
Oui. Et pourtant, les images fondamentales existent encore, même si elles ont parfois changé de sens. Je voulais vous montrer comment, par exemple, nous avons ici, dans...
C'est encore écrit par une femme?
Cardinal Danetz.